Nous venons donc aujourd'hui le dimanche de la Sainte Croix, au milieu du carême. Au milieu du carême, traditionnellement, l'Église met à notre contemplation et méditation met la Sainte Croix du Christ. Cette fête-là, en quelque sorte, résume le carême que nous sommes en train de vivre à mesure de nos forces et illumine ce carême. Il est à la mi-temps du carême. Elle illumine ce que nous avons déjà vécu et elle éclaire ce que nous allons avoir encore à vivre et elle nous réconforte, elle nous redonne un zèle pour poursuivre notre travail de conversion en communion avec l'œuvre de l'Esprit-Saint. Et elle nous fait déjà pressentir le but de ce carême, c'est-à-dire non seulement la passion et la crucifixion, mais la résurrection et la vie éternelle. En vénérant la Sainte Croix, si on la vénère avec foi, pas simplement comme si c'était un rituel obligatoire, et en vénérant la Sainte Croix, nous adorons le Christ qui, par amour pour nous, a renoncé totalement à lui-même jusqu'à sa vie humaine, pour mourir par amour pour nous, avec toutes les souffrances que l'on connaît, et en même temps, puisque nous sommes en communion avec lui, il nous fait participer aussi à sa résurrection et à son ascension au ciel, c'est-à-dire à notre propre résurrection et à notre accession à nous aussi au royaume des cieux dès aujourd'hui. En partie simplement, on est bien d'accord, mais tout de même, quelque chose déjà de la vie éternelle nous est perceptible et rendu sensible. Dans l'évangile que nous avons entendu, le Seigneur nous dit « Qui veut venir à moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Quand on ne lit que cette phrase-là, on a l'impression qu'il nous laisse le choix. « Si vous voulez venir à ma suite, prenez votre croix. » Mais le « si » n'est pas un « si » conditionnel. La volonté de Dieu, c'est que nous le suivions. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions. Or, le Christ est la seule vie qui soit éternelle. Je ne dis pas que le Christ est une vie qui est éternelle, mais c'est le Christ lui-même qui est la vie éternelle. Comme nous l'avons entendu dans l'Épître, si vous y avez fait attention, Le Seigneur Jésus est le grand prêtre du monde. Qu'est-ce qu'un grand prêtre? Un grand prêtre, c'est un homme. Je n'ai pas dit que Jésus était un homme. Mais un grand prêtre, c'est un homme qui a été choisi et élu par le peuple et par Dieu pour faire le lien entre Dieu et le cosmos, entre Dieu et les hommes. Il est le grand prêtre, en quelque sorte, le gardien, celui qui authentifie, celui qui préserve comme un trésor le message vivant. C'est pas simplement une annonce, mais c'est une participation, le message que nous apporte Dieu, c'est-à-dire celui de notre réunification à la suite de notre séparation, notre réunification avec Dieu de manière à ce que nous soyons divinisés. Donc ça, c'est pas un choix. C'est pas un, si vous voulez bien venir à ma suite, prenez votre croix. C'est étant donné que le dessein de Dieu, c'est que vous veniez à ma suite, prenez votre croix et suivez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre la croix du Christ? D'abord, il faut savoir que la croix en bois sur laquelle le Christ a été cloué a reçu, du fait même que Dieu lui-même, en la personne de la deuxième de la Trinité, ait été pendu sur cette croix, ce qu'on appelle les énergies, la grâce, si vous voulez, c'est pas, le terme n'est pas bon, mais enfin, disons-le, la grâce ou les énergies divines ont pénétré, ont rempli la croix de la vie divine, comme le pain et le vin auxquels nous avons communié tout à l'heure à la liturgie sont la présence réelle et complète et entière du Christ et de la divinité, de la même manière, comme le pain et le vin, de la même manière, le bois de la croix a lui-même été rempli des énergies divines. Donc, ce n'est pas de l'idolâtrie que de vénérer le bois de la croix sur lequel le Christ a été crucifié. Et plus loin encore, le Christ a été crucifié sur une croix en bois qui avait la forme, excusez-moi, de la palisse de Nérodan, la forme d'une croix. Bon. Ça veut dire que toute forme de croix est associée d'une certaine manière, sacramentelle, si je puis dire, d'une manière mystérieuse ou d'une manière mystique, disons, toute forme de croix est associée à la croix du Christ qui vient les rassembler toutes et qui vient leur donner à toutes la signification même de sa propre croix. Donc si vous voyez une croix ici, une croix, je ne sais pas en quoi elle est, en bronze mettons, c'est pas, le Christ n'est pas mort sur ce morceau de bronze là, mais je peux en toute réalité vénérer cette croix du Christ, cette croix en bronze, parce qu'elle est associée, elle participe à ce que la croix en bois du Christ a acquis comme sens et comme puissance. Mais ce qui fait la valeur de la croix et de toute croix, comme je viens de vous le dire, et quand je dis bien toute croix, par exemple un carrefour de route, de chemin, là vous avez un calvaire à côté. Pourquoi il y a un calvaire? Le calvaire n'est que la reproduction à la verticale de la croix horizontale formée par les chemins. Et c'est pour ça que à croiser des chemins, on mettait un calvaire. En rigueur de terme, je vous invite pas à le faire, surtout sur les autoroutes. On devrait pouvoir s'arrêter à chaque carrefour et embrasser le sol parce que c'est la croix du Christ. Je ne vous demande pas de le faire. Hein. Mais ça n'empêche pas d'y penser. Et quand on voit une croix, que notre cœur s'élève jusqu'à la signification de cette croix. Mais ce qui donne la valeur de la croix, et de toute croix, c'est parce que Dieu lui-même a répandu son sang, a donné sa vie par le moyen de la crucifixion sur cette croix. La croix elle-même a une forme universelle. La croix elle-même est faite de branches, la croix élémentaire, hein, à 8 branches, je sais bien. La croix est faite de deux branches qui se croisent. Il y a un point particulier, c'est le centre. Et c'est justement sur ce centre-là que le Christ est mort, qui nous a valu sa résurrection. Et les quatre branches qui en émanent sont comme une extension à l'infini de ce point-là. Il ne s'agit pas d'y penser intellectuellement à chaque fois qu'on en voit une croix, mais il faut le savoir pour en vivre. C'est la raison pour laquelle, quand on fait le signe de croix, notre cœur est le centre, et étant donné que Dieu nous a donné par le baptême la foi, on prolonge, on répand cette foi-là aux quatre coins de l'univers, aux quatre points cardinaux. Donc c'est notre cœur qui est appelé à se dilater sur la croix pour manifester l'amour universel du Christ, qui doit être aussi notre amour universel. C'est nous-mêmes qui sommes sur la croix, avec le Christ. Et c'est son amour qui, en nous, se dilate et se répand aux quatre coins de l'univers. Et c'est ainsi que, de cette manière-là, ce n'est pas la seule manière, c'est ainsi que les chrétiens qui sont chrétiens, c'est-à-dire marqués du sceau de la croix, c'est ainsi qu'ils deviennent missionnaires et qu'ils se répandent, qu'ils répandent le message du Seigneur dans tout l'univers. Celui qui veut venir à ma suite, celui qui veut venir à moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce donc que ça veut dire, la croix? Je vous ai expliqué un peu le symbole. Le symbole, c'est-à-dire la réalité, la signification profonde du signe de la croix. Venir au Christ, ça veut dire être associé à lui, être un avec lui. C'est-à-dire, il y a un mot que je cherche et que je ne trouve pas. Il y a beaucoup de mots que je perds comme ça, et puis tout d'un coup je retrouve, le mot que je cherchais. Mais celui-là n'est pas celui qui me vient à l'esprit tout de suite. Nous associer par la croix, on se moule, on s'identifie, voilà. On s'identifie, ou l'Esprit Saint nous identifie au Christ. Quand je fais le signe de la croix, quand je fais le signe de la croix sur chacun d'en vous, sur vous tous, sur le peuple, sur le monde, ou quand vous faites le signe de la croix sur le monde aussi, vous identifiez le monde au Christ. Vous le clouez sur la croix. Non pas d'une manière douloureuse, encore que. Non pas d'une manière douloureuse, mais d'une manière glorieuse. Par notre acceptation de la croix, nous acceptons en même temps, nous manifestons en même temps notre transfiguration et nous manifestons notre intégration à la vie divine. En croyant en la croix, nous croyons non seulement aux matériaux ou à la forme de la croix, mais nous percevons, nous participons, nous réalisons, nous incarnons l'amour que Dieu a montré en renonçant totalement à l'exercice de ses prérogatives divines en s'incarnant et en mettant à part ses capacités, si je peux les appeler comme ça, j'essaie de me faire comprendre, le vocabulaire est indigent, mais il met à part l'exercice de sa vie divine pour être en tout homme comme nous. Et ceci est fondamental. C'est par ce renoncement total à lui-même, c'est ce renoncement total à lui-même auquel nous participons lorsque nous nous marquons du signe de la croix ou que nous prenons notre croix. Que veut dire prendre sa croix ? Prendre sa croix, c'est prendre sa part personnelle, chacun à la sienne, chacun à notre manière. Prendre, accepter, adopter, assimiler ce que le Christ lui-même a vécu. Pas simplement ses souffrances, mais cette kénose, c'est-à-dire ce renoncement volontaire à l'exercice de sa vie divine pour être en tout point, non pas semblable, mais porteur de la vie humaine telle qu'elle est devenue depuis le péché, sans aucune participation de sa part au péché. Qu'est-ce qu'il a, en réalisant cette kénose, qu'est-ce que le Christ a réalisé ? Comme le dit l'Évangile, comme le dit Saint Paul, le Christ s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé volontairement de sa gloire divine. C'est-à-dire qu'il a renoncé à lui. Il a renoncé à ce qui faisait ses prérogatives individuelles, si je peux dire. Là encore, le vocabulaire n'est pas à la limite faux. De manière à prendre sur lui les conséquences de notre déchéance due au péché. Et ceci est encore fondamental. Je vais tout à l'heure expliquer, ou j'ai essayé de vous expliquer, ce qu'était le grand prêtre et grand prêtre, le garant des mystères divins. Et saint Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas un pontife incapable de compatir à notre faiblesse, parce qu'on imagine qu'un pontife, c'est-à-dire un grand prêtre, vous voyez, il est au-dessus de tout, il a pas de souffrance, il rayonne d'une gloire qui ne vient pas de lui, mais enfin... Mais il dit que notre pontife à nous, notre grand prêtre à nous, le Christ, n'est pas incapable, comme les dieux les dieux païens, comme Zeus, comme vous voyez représenté dans... complètement transcendant, complètement hors de notre portée, comme s'il ne pouvait pas compatir à notre faiblesse, comme s'il ne pouvait pas souffrir de notre faiblesse. Mais en Dieu, bien que Dieu soit impassible, en Dieu il y a quelque chose, un aspect inexplicable d'une qu'on appelle la compassion, qui est une participation de sa part volontaire, une participation à nos propres souffrances, à notre propre déchéance. Dieu, tout en étant impassible, souffre d'une certaine manière. Mais le vocabulaire, il n'y a pas de vocabulaire qui permette d'expliquer ça. C'est au-delà de toute notion humaine, philosophique ou théologique. Il souffre pour nous. Il souffre avec nous, et il souffre tellement, il veut tellement nous restaurer dans la non-souffrance dans laquelle, ou dans la vie éternelle dans laquelle nous avions été créés, qu'il rénove Il restaure notre nature en revenant, en venant lui-même sur terre, en s'incarnant, pour remouler, reformer, remodeler notre nature, comme si le moule, comme si l'empreinte avait été abîmée, et que le moule revient pour redonner la forme initiale à notre nature. Et cela, ça se manifeste pas d'une manière, comment dire, je veux dire pas d'une manière miraculeuse, si c'est miraculeux justement, mais pas à nos yeux, pas d'une manière féerique, disons, mais par un lent travail de restauration auquel qui est mené par le Christ, qui nous est communiqué par l'Esprit Saint, mais auquel on peut prendre part nous aussi, et auquel on doit prendre part nous aussi. C'est la raison pour laquelle le Christ dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il prenne sa croix, et qu'il me scie. Le si, c'est-à-dire, dans la mesure où vous le voulez, venez et prenez la vie éternelle. Donc ce grand prêtre qui est le nôtre, le Christ, qui est capable de compatir à notre faiblesse et de souffrir avec nous, saint Paul dit qu'il a été tenté en toutes choses pour être semblable à nous, hormis le péché. Et ça, c'est à graver avec des lettres d'or ou des lettres de feu dans notre cœur. C'est pas simplement qu'il a souffert sur la croix d'une manière atroce. Il y en a d'autres qui ont souffert d'une manière atroce, pas simplement sur la croix, mais on a des martyrs ou des malades qui souffrent atrocement aussi et qui n'ont pas cette, en eux-mêmes, cette valeur, cette mission de restauration de toute la nature comme le Christ l'a fait. Mais le Christ, lui, non seulement avec sa souffrance, mais tout au long de sa vie, pendant les plus ou moins 33 ans de vie qu'il a passé physiquement sur terre, toute sa vie a été un renoncement volontaire à chaque instant à ce qu'il est en tant que Dieu pour se faire semblable à nous les hommes. Et ainsi qu'il a eu faim comme nous pouvons avoir faim. Tiens, ça tombe pendant le carême si on dit ça. C'est-à-dire que si on se donne faim pendant le carême en ne mangeant pas certaines choses, c'est en association avec le Christ qui lui-même a eu faim. Ou plus exactement, c'est parce qu'il nous arrive d'avoir faim, et symboliquement plus ou moins pendant le carême, que le Christ lui-même a voulu assumer ce qui est en nous de faim, F-A-I-N, de manière à le transfigurer et à nous donner la force d'assumer aussi nos famines sous toutes sa forme. Le Seigneur aussi, rappelez l'évangile, quand il va voir la Samaritaine, il est fatigué par la route. Il a connu la fatigue. Et c'est parce que lui, Dieu, connaît de manière passible la fatigue qui nous redonne la force de supporter notre propre fatigue. Et je ne parle pas simplement de la fatigue qu'on ressent après un gros exercice physique quand on fait du travail de jardinage ou transport de cailloux, mais toute forme de fatigue, même psychologique, physique, affective, tout ce que vous voudrez. Toute la vie du Christ, c'est une consiste à assumer notre condition telle qu'elle est devenue, qui n'était pas la sienne en tant que Dieu, mais qu'il prend sur ses épaules, c'est une manière de parler, qu'il prend en lui pour nous redonner la force. Saint Paul continue, et je vais finir par là, probablement, Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour un secours au moment opportun. Secours au moment opportun, c'est notre passage de la vie terrestre à la vie éternelle. Mais l'important, c'est approchons-nous avec assurance. Assurance, c'est à la fois l'assurance et à la fois la hardiesse, l'audace, le culot qu'il nous faut alors que nous sommes indignes, alors que nous constatons qu'il est nécessaire de constater notre indignité, d'oser nous approcher de celui qui est le Tout-Saint de manière à être illuminé par lui dans la mesure où on reconnaît nos ténèbres. Trouver miséricorde et trouver grâce, c'est-à-dire être illuminé par la lumière divine, être chauffé par la chaleur divine, être participant à la vie divine elle-même. C'est ça qui est notre vocation. Elle est évidemment sans commune mesure avec notre faiblesse et notre misère commune. Mais pourtant, c'est cela la vocation que Dieu nous donne. C'est ça c'est ça qui est la vie avec un grand V. Il n'y a qu'une vie qui soit éternelle, c'est la vie divine. Et c'est par notre participation à la vie divine que nous pouvons vivre réellement. Ce n'est pas simplement avoir une récompense dans le royaume des cieux après notre mort, si on s'est à peu près bien tenu sur terre. C'est vraiment changer d'état de vie, changer de niveau le niveau de notre existence. Et ainsi, notre vie quotidienne consiste à désirer et à expérimenter la vie divine. Parce que vivre simplement de la vie matérielle, de la vie psychologique, la vie affective, la vie matérielle, ça c'est pas de la vie de toute manière. Dans quelques années, moins pour vous que pour la plupart d'entre vous, moins pour moi que pour la plupart d'entre vous, va bientôt se terminer. Donc c'est éphémère. Que ça dure un an ou que ça dure 100, combien le maximum tout de suite, 133 ans je crois, la différence n'est pas grande à côté de l'éternité. Et la vie, c'est l'éternité. Et c'est cette vie-là qu'il faut préparer aujourd'hui. C'est non seulement la préparer, non seulement nous mettre dans des dispositions, mais c'est cette vie-là qu'il faut apprendre à percevoir. Non seulement à désirer, mais apprendre à expérimenter partiellement, hélas, mais expérimenter pendant notre vie. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre la vie éternelle. C'est aujourd'hui qu'il faut suivre le Christ pour être assimilé à sa vie. C'est aujourd'hui qu'il faut apprendre à renoncer en tout point, pas en certains points, mais en tout point à notre identité, si je puis dire, à renoncer à notre moi, à notre individualité, de manière à acquérir ce qui est dans nos possibilités, selon nos forces, à acquérir une communion profonde d'amour, parce qu'il n'y a pas de meilleur mot que le mot amour, d'amour, de communion, d'abandon de soi pour la joie, pour le bonheur de l'autre, de manière à accomplir cet amour universel à côté de soi, autour de soi, et le répandre dans le monde entier. C'est facile de dire que j'aime le petit Indien Iroquois. Là, tu parles, il n'est pas à côté de moi. Je peux l'aimer, il ne va pas me faire de misère. Mais aimer celui qui est à côté de soi et qui a des,
qui a des velléités qui ne sont pas les miennes, des désirs qui ne sont pas les miens, des habitudes qui me froissent, une volonté qui ne correspond pas à la mienne ou qui s'oppose à la mienne, cela c'est notre condition humaine déchue. Mais justement, la vie éternelle, c'est de rompre, avec la grâce du Saint-Esprit, d'apprendre petit à petit tout au long de notre vie, à rompre cet égoïsme, cet enfermement sur soi-même, pour en quelque sorte devenir l'autre, préférer l'autre plutôt que soi-même. C'est-à-dire préférer le Christ plutôt que soi. Évidemment, cela demande, comme tout renoncement, cela demande un déchirement. Il faut déchirer la carapace de notre égoïsme et de notre orgueil, déchirer ça, ouvrir notre cœur, saigner volontairement, de manière à enlever l'enveloppe, la gangue, la croûte, comme une croûte de noix de coco, dure à casser, mais qu'il faut réussir à briser, de manière à pouvoir avoir accès à la chair et au lait qui se trouve dedans, qui est la vie de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est en nous. Il est comme, excusez-moi l'image n'est pas très belle, mais comme la chair de la noix de coco et du lait qui se trouve à l'intérieur. Dieu se trouve à l'intérieur de nous, mais enfermé dans cet égoïsme, enfermé dans notre nature déchue, et c'est cela qu'il faut participer à briser, et l'Esprit Saint, les voies de Dieu, ainsi que l'action des démons, sont l'occasion de briser cette carapace, et d'avoir enfin accédé à la chair, je ne sais pas si on peut l'appeler succulente, pour la noix de coco, mais la chair succulente de la vie, de la vie divine. Donc, suivre le Christ, prendre sa croix, c'est aussi effectivement souffrir. Mais pas par amour pour la souffrance en elle-même. Nous ne sommes pas des masochistes, mais en acceptant les conséquences de ce retournement intérieur, en acceptant la souffrance, c'est-à-dire le renoncement à soi, la douleur, la douleur qu'on peut expérimenter, qui est effectivement notre croix, de manière à devenir un homme nouveau, que ce ne soit plus nous-mêmes qui vivions, mais que ce soit le Christ qui vive en nous et que nous vivions de sa vie. À lui soit la gloire, avec son Père éternel et son Esprit très saint, bon et vivificateur, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.